cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 25 février 1986.
garder la famille en Asie. Parce qu'elle joue un rôle capital. Encore plus qu'en Occident. Encore plus. Là, il y a quelque chose de commun. La famille est quelque chose de sacré. C'est vrai, elle est quelque chose de sacré. Elle est quelque chose de sacré à cause de la procréation. Et en fonction de la procréation. Elle n'est pas sacrée. De l'amour de l'homme et de la femme. Mais au niveau de l'amour de l'homme et de la femme, vous voyez, c'est ça qui a été développé le plus. C'est très vrai que nous devons mettre très en lumière cet aspect de l'homme et de la femme à cause de du personnalisme. Toute la philosophie de la personne s'est beaucoup développée en Occident. C'est vrai, le mot personne n'existe pas. Chez Aristote, il commence à exister avec les stoïciens. Mais la réalité y est. Et on regarde tout au point de vue de la nature. Alors on regarde cette communauté fondamentale au niveau de la nature. Au niveau de la nature, c'est vrai que l'amour de l'époux et de l'épouse représente une complémentarité. Nous dirions que l'amour de l'époux et de l'épouse représente un amour personnel. il y a des moments comme ça, c'est très curieux du reste. Alors, on doit essayer de comprendre autant qu'on le peut, parce que je crois que la vérité au niveau politique n'est pas aussi nette qu'en éthique. Parce qu'il y a toujours un pause. Mais en politique, où la philosophie peut dire le plus, avec le plus netteté, c'est la famille. Ça, c'est sûr. Parce qu'elle est fondement et qu'elle touche à la nature des choses. Alors, je crois que tout l'apport chrétien a mis très en lumière tout cela, le point de vue de la relation de l'homme et de la femme, en insistant beaucoup sur l'amour d'amitié et en faisant comprendre qu'il y en a un certain absolu. certain nombre de personnes qui sont là. Et ça fait la grande famille. Table commune, grande famille. Alors, c'est très proche de ce qu'Aristote disait. Mais nous nous précisons davantage. Et là, on a raison. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop vite rejeter. La famille a nécessairement un lien avec l'économie. Ce lien avec l'économie peut faire que la source de l'économie soit extrinsèque à la famille et vienne de l'État. Ou que la source de l'économie soit intrinsèque. L'exploitation familiale. Alors je sais très bien qu'aujourd'hui, c'est pas toujours très bien conçu. Mais ça existe, et philosophiquement parlant, indépendamment du point de vue politique, c'est une conception de la famille. Alors, la ressource est chargée à l'intérieur de la famille, avec des membres extrinsèques à la famille, qui sont intégrés avec des contrats, avec un lien, une alliance familiale. Ça existe. C'est mieux quand la source économie est complètement séparée ou quand la source économie est intégrée. Je crois que des deux côtés, on trouve des abus. Mais il y a une question intéressante là à voir, vous voyez. D'où est la source économie? Est-ce qu'elle est naturellement de la famille, exploitation familiale? On voit ça. C'est extraordinaire. Ça a commencé par l'arrière-grand-père qui était un ouvrier, qui s'est séparé et puis qui a mis toute sa famille dedans. Alors il gagnait bien parce qu'il ne payait pas les membres de sa famille. Et c'était de la main-d'œuvre gratuite. Alors il avait des cigarettes très bon marché, excellentes. Et ça a pris. Alors maintenant c'est toute une organisation, mais la famille est toujours dedans. Et la famille, c'est pas des patrons. Donc si la famille a un enracinement très très fort, naturel, pour être la communauté fondamentale, on comprend qu'il y a une orientation fondamentale de la famille, avoir une autonomie économique. Et qu'elle cherche cela sur tous les moyens. Et qu'à travers tous les régimes, on verra tout le temps ça. Alors il y en a qui réussiront, il y en a qui rateront, c'est tout. Il y a une sélection, point de vue économique. Parce que là, c'est la jungle. Mais c'est très curieux de voir cette espèce de répétition constante. La famille cherche à avoir une autonomie économique. Ou c'est le patrimoine. C'est encore l'économie. Le grand-père s'est enrichi. Il a acheté une ferme. Il a acheté des terres. Le patrimoine, c'est ça. Ce sont des terres qui restent attachées. Alors, c'est très vrai devant certaines théories politiques. On voit rouge devant ça. Attention, c'est l'État qui veut dominer la famille. Mais il ne faut pas oublier que la famille reste toujours le fondement d'un pays. Et quand la famille est riche, le pays est riche. Et quand la famille est pauvre, le pays est pauvre. Impossible autrement. Alors, il y a là un problème. Il faut au moins le poser. Hein. Je ne le résous pas. Je dis, je constate philosophiquement qu'il y a ce fait, comme ce que le vieil Aristote avait dit, n'est pas si bête. Simplement ça que je constate. C'est pas si bête. Parce que c'est essayer de maintenir la famille comme communauté fondamentale ayant son autonomie économique. Et que ça se recherche tout le temps, ça. Les bons vieux paysans de ça. Il y a du bon dans les vieux paysans. Il y a une sagesse philosophique. Les artisans, c'est ça aussi. Alors évidemment, avec le phénomène de l'industrie qui a donné à l'économie une vision tout à fait différente, internationale, la pauvre petite famille est étranglée. Alors je crois qu'il faut saisir ce phénomène de l'économie, qui est un phénomène moderne. Il faut le saisir au point de vue philosophique, ou le situer. C'est évidemment tout l'aspect de l'industrie qui a de fait enlevé et qui tend à enlever le plus possible ce que représente l'économie familiale, de la petite ferme. Parce que ça existe même pour moi du agriculture, de la petite ferme ou de la petite, industrie artisanale. Je connais dans le nord de la France un village dans lequel il y avait 30 marbreries il y a 50 ans ou 70 ans. 30 marbreries. 30 familles avec quelques ouvriers, mais qu'est-ce que la famille ? Ça, aujourd'hui, plus une. Et ces marbreries allaient chercher du marbre en Italie, partout. ces choses-là, il faut les comprendre. Il ne s'agit pas uniquement de dire oh, moi je suis du 20e siècle, fin du 20e siècle, c'est bien évident, on ne peut plus faire marche arrière. C'est très vrai, on ne peut plus faire marche arrière. C'est ça qui est le drame, d'une certaine manière. On ne peut plus. Il faudra un cataclysme, voilà, ce qu'on ne peut pas souhaiter, n'est-ce pas, pour qu'il y ait encore trois personnes sur le monde. Alors elle ferait une communauté initiale qui reprendrait tout. Vous comprenez bien? Parce que c'est vrai, ça ne restait plus qu'à trois. Qu'est-ce qu'on ferait, hein? Tous les autres disparaîtraient. Je crois que c'est impossible, ça fait partie des rêves. Mais c'est philosophiquement, on ne peut pas penser, on voit qu'on ne peut pas revenir en arrière. Alors, il faut bien comprendre philosophiquement l'enracinement de l'économie dans la famille. Mais de l'économie, economia, comme les anciens l'appelaient, hein, c'est pas la science économique, c'est tout simplement le fait d'avoir suffisamment. Parce que j'ai autorité sur vous. Je vous donne un ordre. Et vous dis en ordre, eh bien, orientez vos recherches dans ce sens-là. Parce que je vous demanderai ce service. Alors, préparez-vous à ça. L'autorité repose sur la prudence. Cette fameuse question de saint Thomas, vaut-il mieux élire un prieur saint ou un prieur plus prudent? Et saint Thomas dit qu'il faut élire le prieur prudent. Le saint doit être prudent, mais n'a pas nécessairement la grâce d'exercer l'autorité au niveau communautaire. Oh, l'autorité, c'est une prudence politique. C'est pas n'importe quelle prudence. Il y a la prudence monastique et la prudence politique. La prudence monastique, c'est celle qu'on acquiert pour nous-mêmes. Normalement, quand on a 25 ans, on doit être un homme prudent. 18 ans en France, puisqu'on est un citoyen capable d'élire. Mais ça, c'est conventionnel. Tandis que la réalité fait que c'est ordinairement vers 25 ans qu'un homme devient prudent. Il commence. Et la prudence politique, 45 ans. Mais la prudence personnelle, 25 ans. Je crois. Parce que c'est quelque chose qu'on acquiert progressivement. Alors évidemment, on voit tout de suite ceux qui ont des qualités au commandement, ceux qui acquerront vite une prudence, et ceux qui, en quelque sorte, ne l'auront jamais. On rend un très mauvais service à quelqu'un qui est imprudent de lui confier l'autorité. C'est un fait. Très mauvais service pour les autres qui en pâtiront, et pour lui. Donc, l'autorité repose sur la prudence. Et quand il s'agit d'une autorité dans tel ou tel secteur, la compétence. Vous êtes suffisamment compétent, il faut connaître suffisamment. Au moins renvoyer à des gens compétents. Parce qu'on peut très bien gouverner dans un certain domaine sans tout connaître. On ne peut pas tout connaître. Donc il vaut mieux à ce moment-là connaître des gens compétents et avoir le conseil de ces gens compétents. Autrement dit, la prudence est personnelle. La compétence peut être partagée, comme toujours l'intelligence. Tout ce qui est domaine de l'intelligence, ça peut être partagé. Tandis que le domaine de la prudence, c'est personnel. Vous ne pouvez pas dire, je vais gouverner, moi je ne suis pas prudent, mais je vais prendre un conseiller très prudent. Je ne peux pas faire ça. Ce que je peux dire, j'essaie d'être prudent. Et j'ai des hommes compétents autour de moi, dans telle ou telle matière. Ça, c'est normal. C'est même prudent de reconnaître qu'on n'est pas compétent en tout. C'est même très imprudent de croire qu'on est compétent en tout. Parce qu'on n'est jamais compétent en tout. On est compétent dans un domaine, c'est normal. Ou dans deux domaines, ou dans trois, c'est déjà bien. Alors, de fait, sa finesse, a découvert que son époux manquait complètement de prudence. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les rênes, surtout au point de vue économique. Elle a la bourse, et elle tient son homme par la bourse. Alors si elle est très intelligente, elle lui fera croire que c'est toujours lui qui commande tout. Mais elle sait très bien, et elle vous le dira, que c'est elle qui commande, parce qu'elle est prudente. C'est très curieux. J'allais dire, dans toute communauté, c'est un phénomène qui se fait presque sélectivement. On voit tout de suite ceux qui pourront commander, et ceux qui normalement diront non, je crois que c'est pas du tout pour moi. Quelqu'un qui n'a pas envie de commander parce qu'il sent qu'il doit aller du côté des, par exemple, du côté des études, c'est pas fait pour moi. Il n'y aura aucune jalousie. Vous voyez, il y a des hommes qui sont plus naturellement prudents. Il y a des femmes qui sont plus naturellement prudentes. Quel est le grand ennemi de la prudence? C'est la passion. Or, il est évident que normalement, les femmes sont plus passionnées que les hommes. Ont une générosité, une passion plus grande. Normalement, je dis normalement. Parce que c'est pas toujours comme ça, mais c'est normal que ce soit comme ça. Alors, à cause de cette passion plus grande, à cause d'une sensibilité plus forte, à cause d'une émotivité plus grande, à cause donc de ce développement passionnel et imaginatif plus grand, la femme a plus de peine d'être vraiment prudente. Elle agit plus selon un instinct qui quelquefois est merveilleux et va beaucoup plus loin que la prudence, et quelquefois tombe complètement à côté. Et là, c'est la catastrophe. Vous voyez, l'autorité de l'homme de fait repose sur des traditions religieuses, je crois. Philosophiquement, l'autorité repose sur la prudence. Ça, je crois qu'il faut le dire. Et il faut dire que normalement, ce qui se passe dans nos pays, c'est que l'homme a plus de prudence. Et donc, il est assez normal. Il y a des cas exceptionnels, c'est bien évident. Mais c'est assez normal. Et c'est, je crois, ce droit des nations qui s'est imposé de cette manière. Alors, politiquement, on peut dire que c'est naturel. Politiquement, c'est naturel. Hein. Voyez bien, le naturel politique implique une tradition, implique une convention. On a reconnu que la plupart du temps, c'était comme ça. Il y en a traité. Mais philosophiquement, si vous étudiez ces traditions au plan philosophique, vous devez voir que l'autorité repose sur le point de vue de la prudence et le développement de la prudence. Donc, c'est pour cela que lorsque l'homme n'a aucune prudence, et même est souverainement imprudent, parce qu'il est alcoolique, l'État peut très bien faire qu'il n'a plus d'autorité, et que c'est quelqu'un d'autre, un tuteur, ou l'épouse, qui aura l'autorité. Ça peut se faire. Pourquoi on donne des tuteurs, c'est ça? Alors c'est dans le même sens qu'on doit voir l'autre chose. Parce que pour la question du nombre d'enfants, c'est évident que c'est l'autorité des deux. C'est l'autorité des deux. Et le respect mutuel des deux. Qu'est-ce qui commande le point de vue de la procréation? C'est la à l'intérieur de la famille, à s'ils ne sont pas d'accord, tant qu'on n'est pas d'accord, on ne prend pas de décision. On attend. Parce que c'est un choix qui doit être commun. C'est trop grave et c'est trop important. Avoir une famille nombreuse ou avoir une famille toute petite, c'est le choix habituel des deux. Et dans tout foyer où il y a la famille vraie, il y a un amour. De fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment la décision des deux. Alors, quelquefois, l'un peut avoir l'initiative, quelquefois l'autre, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est qu'on puisse avoir un choix commun. Donc, la première relation de l'homme et de la femme, c'est une relation d'amour et d'amitié. Dans l'amour et l'amitié, il n'y a pas au sens strict autorité. Au sens strict. L'ami, même s'il est plus vieux, n'a pas d'autorité sur son ami plus jeune. L'autorité risque toujours de détruire l'amitié. C'est qu'entre l'homme et la femme, si c'est un lien d'amour qui les lie, il n'y a pas au sens strict d'autorité. Par rapport aux enfants, oui. Par rapport à l'économie, oui. Par rapport à l'équilibre du budget, oui. Par rapport à l'équilibre de la famille et de la communauté fondamentale que représente la famille, oui. Il y a nécessairement une autorité. Mais par rapport à l'amour de l'un et de l'autre, son amour.